Vaincu, vous vous souvenez du texte sur lequel je me suis appuyé dimanche passé. Donc merci pour votre mémoire qui est toujours très vive. On avait parlé en partant d'Ésaïe 41 sur l'élection de Dieu qui est rappelée pour encourager Israël qui traverse une période extrêmement difficile. Et donc... Merci beaucoup. Et donc, nous avions vu ensemble que lorsque les chrétiens ont besoin d'être encouragés, il arrive à Dieu de rappeler qu'il les a élus, qu'il les a aimés, et qu'ainsi ils puissent, comme le texte nous le dit, ils puissent arrêter de porter des regards inquiets et qu'ils puissent se fortifier, sachant que Dieu vient à leur secours. Alors, comme vous le savez, dans les Saintes Écritures, par rapport à l'élection, eh bien, il y a son pendant, c'est-à-dire l'engagement des chrétiens que nous sommes, forts des certitudes qui sont les nôtres. Nous appartenons à Dieu, il nous a aimés, il nous a choisis, donc nous nous mettons à son service. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va rappeler dans sa deuxième épître, avec pour contexte, j'ai pris que ces deux versets pour... qu'il soit bien présent à votre esprit, mais c'est précédé évidemment par d'autres paroles qui nous disent « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » Et puis, comme vous le savez, il est dit « Fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science à la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour agapé donc. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et le verset qui est juste avant les nôtres, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Comme vous le savez, on peut être aimé de Dieu, on peut avoir été choisi par Dieu, et puis on peut rester en arrêt dans sa vie spirituelle. On peut se dire, ben, c'est très bien tout ça, le Seigneur m'a sauvé, et puis être absolument stérile. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre rappelle ces grandes vérités, mais non seulement Dieu vous a appelé, vous a sauvé, vous a baptisé de son Esprit Saint, et il vous a donné tout ce qui est possible pour que vous puissiez avoir une vie enrichissante, une vie enthousiasmante, une vie à la dimension de la nature divine qui habite en nous par l'Esprit qui nous a été donné. Mais, et il faut bien le dire, il peut arriver que le chrétien oublie ces choses et qu'il mette tout cela en oubli. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, qui avait une certaine expérience de la capacité de s'éloigner de Dieu, dans les évangiles, certes, il n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit, la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu. Néanmoins, il profitait du ministère du Saint-Esprit d'avant la Pentecôte, il suivait le Seigneur, mais néanmoins, le texte le dit, Pierre, suivant Jésus de loin, il est arrivé jusqu'à le renier, et puis il en a amèrement pleuré. Le Seigneur l'a rétabli dans son ministère à la fin de l'évangile de Jean. Mais Pierre avait une certaine expérience de la capacité que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, parfois à faillir et à se laisser aller dans une négligence fatale. Alors, il rappelle aux chrétiens la chose suivante, « Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » J'ai pris ces mêmes versets dans la transcription moderne de M. Alfred Kuhn, qui s'appelle « Parole vivante », où c'est transcrit ainsi « Mes frères, Dieu vous a choisis et vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de... et affermir par votre vie cette vocation et cet appel. Vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas, et Dieu vous ouvrira toutes grandes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est évident qu'à partir de ces versets, on se rend bien compte qu'il y a une qualité de vie chrétienne possible. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire à vivre en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, dans une vie d'obéissance et de respect à sa parole. C'est ce qu'on appelle la vie dans la plénitude du Saint-Esprit, qui est le standard de la vie chrétienne. Il n'y a rien d'extraordinaire à être rempli du Saint-Esprit. Mais il n'empêche que ça fait quelque chose d'extraordinaire et de bienfaisant quand on marche dans l'obéissance avec le Seigneur, puis qu'on le voit grandir en nous et puis nous utiliser. Et quand on voit que par sa grâce, on porte des fruits, des hommes et des femmes se convertissent, on a des enfants spirituels, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu, qu'on reçoit par grâce, mais enfin, quel bonheur d'être chrétien et de vivre dans cette plénitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, que s'appliquer ? S'appliquer à quelque chose, c'est s'efforcer, c'est faire son possible, c'est mettre tout en œuvre, c'est persévérer, voire s'acharner dans certains cas. Donc, vous voyez, il y a cet appel de la part de Dieu qui nous dit, mais ne reste pas inactif. Réfléchis à ton appel, à ta vocation, à ton élection, et puis mets-toi en marche d'une manière régulière, déterminée, et dans toutes les sphères d'activité qui sont les tiennes, famille, travail, église, voisinage, eh bien, sois conscient de ce qui tu es et de ce que Dieu peut faire, et mets-toi au travers de toi, et mets-toi au service du Seigneur. On l'a bien compris, il faut aux chrétiens affermir et confirmer sa vocation. Et il y a quelque chose de mystérieux quelque part, parce que vous savez qu'il y a deux tendances au travers des siècles sur le sujet. Il y a ceux qui disent, ben, puisqu'on est élu, ne bougeons pas, laissons Dieu à faire les choses, c'est tout par grâce. Ça existe, il y a des églises qui disent, nous on ne bouge pas, on adore Dieu, on ne va pas faire d'évangélisation parce que ceux que Dieu doit sauver, il va les envoyer, ils vont descendre tout seuls. Donc ça c'est une conception. L'autre conception c'est faisons tout comme si tout dépendait de nous. Alors, vous avez deux extrêmes qui s'opposent, qui créent une certaine tension quelque part. Et puis, il y a l'enseignement équilibré des Saintes Écritures. C'est oui, vous êtes choisi, vous êtes aimé, vous êtes élu. Oui, vous avez tout qui vous a été donné par Dieu pour vivre cette vie chrétienne. Et puis, en même temps, allez-y. Livrez-vous, comme dira Paul aux Romains, livrez vos membres comme un sacrifice vivant à Dieu. Alors c'est un mystère ça, parce que c'est ce qu'on appelle le concours profond et invisible de la volonté humaine qui est touchée par Dieu, donc par l'élection de Dieu. Il y a un moment donné dans nos vies, on a été touché. Bon, je ne sais pas comment vous êtes converti, moi je ne suis pas d'une famille évangélique, loin s'en faut. Et puis un jour, Dieu m'a rencontré, Dieu m'a attiré à lui, Dieu m'a saisi. Alors évidemment que c'est quelque chose qui m'a marqué à jamais, ça fait 42 ans maintenant. Et puis, il y a donc ma volonté humaine touchée par l'élection, et puis la volonté divine qui nous a élus, et ces deux volontés doivent marcher de concert. Dieu nous a élus pour une vocation. J'ai été sauvé pour servir. Et donc on doit ensemble, si je puis me permettre, Dieu, son dessein est toujours le même, il ne change pas, il veut notre bonheur, notre épanouissement en Christ, et il veut qu'on puisse véritablement expérimenter quelque chose de divin dans nos corps mortels. Et puis il y a nous, avec ce que l'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de dire oui à Dieu ou de freiner, de ralentir, d'être paresseux spirituellement, enfin de faire ce qu'on veut, de savoir ce que la Bible dit, puis de faire autre chose, enfin, etc. Il y a possibilité d'être des chrétiens spirituels, comme dira Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 3, ou des chrétiens charnels. Dans les deux cas, ce sont des enfants de Dieu. Vous avez remarqué que dans le texte de la première aux Corinthiens, chapitre 3, quand Paul parle des chrétiens charnels, il dit « ils sont en Christ ». Donc c'est vraiment des chrétiens, nés de nouveau, mais ils sont charnels. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Un chrétien spirituel, ce n'est pas quelqu'un de parfait, C'est quelqu'un qui découvre qu'il a des défauts, il commet des péchés, mais il met sa vie en règle devant Dieu. Il vient devant la croix, il confesse ses fautes, et par la grâce, il reçoit donc le pardon en Jésus-Christ, et il se met tout de suite au service de Dieu. Le chrétien charnel, c'est celui qui se dit, bah ouais, ma vie n'est pas terrible, je ne suis pas très obéissant, mais je n'ai pas envie de changer, puis qui reste comme ça, dans cet état-là. Alors il vient au culte, il assiste à la réunion de prière, mais enfin au fil des années, évidemment, on le voit de moins en moins. Mais enfin, il vient quand même au culte, il est là, il est sympathique, comme si l'église était un club. Non, ça n'a rien à voir, la vie chrétienne, c'est autre chose, c'est une vie de disciple. C'est une vie de service, c'est une vie d'obéissance, c'est une vie de joie, une vie de plénitude et d'enthousiasme. Alors il faut mettre notre volonté humaine touchée par l'élection en accord avec la volonté divine qui nous a touchés. Et c'est en résumé ce que la Bible appelle être un disciple. C'est donc avoir une discipline de vie. La discipline, c'est de vouloir vivre pour Dieu. Ça se situe là, hein, vivre pour Dieu. Puis lui, après, le Seigneur, il nous donne ce qu'il faut. Hein. Je peux vous dire que, enfin vous le savez aussi bien que moi, quand vous lisez les Saintes Écritures, Dieu il est prêt à nous donner ce qu'il nous faut pour qu'on vive quelque chose enfin pour qu'on soit transcendé au quotidien dans le fond. Paul va dire aux Éphésiens, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous voyez, Paul, c'est une autre personnalité, un autre ministère par rapport à la personnalité de Pierre et au ministère de Pierre, mais ils disent les mêmes choses. Et c'est vrai que la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit, hein, la vie spirituelle, la vie divine en nous, elle est menacée si rien au-dedans ne l'entretient. Si on n'entretient pas notre vie en Christ, cette vie est menacée. Certes, on ne va pas perdre son salut, parce que le salut ne dépend pas de ce qu'on fait, mais de ce que Christ a accompli. Mais c'est évident qu'on ne va pas vivre une vie chrétienne satisfaisante, une vie de plénitude. Alors, attention, c'est ce à quoi nous invite l'apôtre Pierre, c'est attention, affermissons notre vocation et notre élection. On dit que si l'intérieur de nous-mêmes ne réagit pas suffisamment sur le dehors, c'est-à-dire si ce qui fait véritablement nos pensées, notre cœur, notre volonté, si ça n'agit pas sur l'extérieur, c'est-à-dire si ça ne nous amène pas à nous engager, autrement dit, si notre foi n'est pas une foi active et pratique, comme le disait l'apôtre Jacques, tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Qu'est-ce que tu fais ? Bien beau de dire que tu as la foi, mais si tu fais ce que tu veux, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si l'intérieur n'agit pas sur l'extérieur, vous comprenez l'image, hein, eh bien, sur le dehors, donc l'extérieur va nuire à l'intérieur. J'ai travaillé, avant d'être dans le ministère pastoral, en tant que chrétien évangélique, j'ai travaillé de longues années dans une entreprise, j'ai eu des enfants spirituels chez mes collègues, chez leurs conjoints, chez les clients, puis j'ai vu certains de ces enfants spirituels qui n'entretenaient pas la vie en Christ à l'intérieur d'eux-mêmes, et je les ai vus petit à petit s'effilocher. Vous savez, j'ai passé 24 ans dans le monde du travail sur 42 ans de vie chrétienne, en étant un chrétien, au boulot, et je peux vous dire que j'ai observé mes collègues chrétiens, nés de nouveau, mes frères en Christ, et j'en ai vu quelques-uns, hélas, eh bien, j'ai vu leur foi s'effilocher, parce qu'ils acceptaient certains compromis, ils n'osaient pas dire qu'ils étaient chrétiens, enfin, ils étaient toujours là, un peu, à essayer de glisser sans trop prendre de risques, mais, vous savez, sur 22 ans dans la même société, les non-chrétiens vous observent, mais vous les observez aussi, puis vous observez vos frères et vos sœurs, quand vous en avez, par la grâce de Dieu, et je peux vous dire que c'est pas se rencontrer le dimanche matin, hein. C'est tous les jours de la semaine au travail. Et là, on voit la qualité de vie spirituelle de quelqu'un. Alors, ils m'ont observé, je les ai observés. Et à ma grande tristesse, j'ai deux de mes enfants spirituels sur une tranche d'un certain nombre d'années. Je les ai vus, vraiment, leur foi s'effilocher. Et il y en a un qui est revenu au Seigneur et il m'a dit, j'ose même plus témoigner à cause de ce que j'ai fait avant. Je lui ai dit, écoute, ce que tu as fait avant, c'est pardonné. Maintenant, tu te présentes devant les autres, tes collègues, et tu vis comme un vrai chrétien, parce qu'il faut que tu en sortes, quoi. Alors, vous voyez, si l'intérieur n'agit pas sur l'extérieur, c'est l'extérieur qui va nous nuire. Et c'est ce qui est arrivé, donc, à ces bien-aimés, avec lesquels je suis toujours en relation, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu comme nombre d'années de vie chrétienne, franchement, quand j'y pense, ça me faisait mal au cœur. Mais l'heure passe vite avec vous, c'est incroyable. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Très intéressant dans l'Ancien Testament de voir que la première fois que les prêtres et les lévites ils virent dans le désert le tabernacle que Moïse venait de construire, quand ils ont vu la nuée qui précédait le tabernacle, ils n'en approchaient de ce tabernacle qu'avec une sainte crainte. Et rien n'était omis des purifications et de tous les autres préparatifs que la loi prescrivait aux serviteurs. Mais peu à peu, la vue journalière du tabernacle les a familiarisés avec ce lieu saint. Les précautions cessèrent avec le respect. Il y a même des sacrificateurs qui osèrent présenter un feu étranger. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, dans cet Ancien Testament dont l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit que tout ce qui a été écrit pour notre foi et pour notre instruction, quand vous les voyez au tout début, ils sont là pétrifiés de crainte. Merci. Oh ben c'est drôlement gentil. Merci. Vous allez devoir me supporter plus longtemps que prévu. Armez-vous de patience. Alors, quand au tout début, là, ils étaient vraiment en tremblant. Hein. Puis petit à petit, au fil des mois et des années passées dans ce désert, eh bien, il y en a qui se sont permis des comportements qui n'étaient pas selon les instructions de Dieu. Et puis ça a été des choses terribles. Hein. Et puis ça a été jusqu'à des filles de Madian qui devinrent bientôt une occasion de chute et de scandale. Et puis à peine dans toute la tribu de Lévi se trouva-t-il un dénommé Phiné, hein, qui nous paraît être un type violent, mais qui a agi à l'époque pour préserver la sainteté de Dieu et la sainteté du sacerdoce, hein, quand il est allé jusqu'à tuer quelqu'un. Et ça, c'est l'habitude. Vous savez, dans le monde, on dit « l'habitude tue l'amour hein ». Mais faisons attention que l'habitude dans notre relation avec Dieu ne tue pas notre dimension de vie spirituelle, notre engagement, notre désir de nous consacrer pour le Seigneur. Je réfléchis parce que ce qui me traverse l'esprit, ce n'est pas dans mes notes, mais c'est tellement, pour moi, c'est tellement frappant. On a eu à une certaine époque un chrétien qui commençait à. Dans notre église, hein. Qui commençait à critiquer, qui commençait à tenir des propos qui étaient chez lui. Et puis il a été très loin, parce qu'il a été jusqu'à faire l'adultère, tromper sa femme, abandonner sa femme et ses enfants, etc. Et puis un jour, il a quand même avoué les choses. Et il a dit, écoutez, ça fait depuis plusieurs années que je ne lis pas vraiment ma Bible et que je ne prie pas vraiment. Il n'avait plus de vie spirituelle intime avec Christ. Il ne prenait plus le temps. Et puis, il nous a dit, la dégringolade, elle vient de là. Il n'avait aucune vie spirituelle sérieuse. Il prenait un feuillet du calendrier évangélique. Il traitait, comme il est dit dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Israël, tu m'as jeté par-dessus ton épaule. Il avait jeté Dieu par-dessus son épaule. Et il a eu une dégringolade. Incroyable. Et vous savez, avant de dégringoler complètement, vous savez ce qu'il nous disait ? Il nous tenait des propos extrêmement spirituels. Il nous accusait de ne pas être suffisamment spirituels. On était face à une situation invraisemblable, jusqu'à ce qu'avec le temps, Dieu révèle les motivations profondes qui soutenaient tout ce comportement inhabituel chez lui. Et qu'il l'a entraîné, ce comportement, à des situations dramatiques. Mais il a eu de la chance parce qu'il avait une femme qui l'aimait. Et en tant que pasteur, j'ai énormément appris en accompagnant cette épouse qui a dit, c'est mon mari. Lui était parti, hein. Il était parti de la maison, il vivait avec une autre femme, il y avait deux enfants là. Et j'allais voir cette sœur et elle me disait, c'est mon mari, rends-moi mon mari, etc. Et pendant plusieurs années, j'ai accompagné cette sœur en Christ là. Et je lui disais, elle a une foi que moi, des fois j'y croyais plus, hein. Je lui disais, c'est pas possible. Et puis, pour des raisons géographiques, professionnelle, elle a changé de lieu, elle s'est jointe à une autre église. Et un jour, je l'ai rencontrée dans le 14e arrondissement de Paris, dans un magasin, une grande surface. Je suivais un stage et j'avais besoin de m'acheter un sandwich pendant la pause. Un stage à l'église avenue du Maine, hein, dans le 14e, et donc un séminaire plutôt. Et alors, je la rencontre dans le magasin, dans le rayon des yaourts, là. Et un grand sourire. Et alors, je lui dis, ah, c'est super et tout. Et je lui dis, alors, et ton mari? Elle me dit, il est revenu à la maison. Il est revenu à Christ. Vous savez, j'étais là, au milieu des yaourts et du beurre, là. J'ai regardé cette sœur en Christ. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau, la foi d'une femme qui prie parce qu'elle voulait pas lâcher son mari. Alors elle était exactement dans la perspective du texte de l'apôtre Pierre. Elle affermissait sa vocation, elle s'enracinait dans son élection, et elle ne voulait pas vivre dans le péché, et elle voulait récupérer son homme, c'est quelque chose. Et alors effectivement, il est revenu, il s'est repenti, il a repris la vie commune. Chapeau, hein. Chapeau au Seigneur. Et puis à la foi que Dieu a donnée à cette sœur. Alors, vous voyez, ça passe par des éléments extrêmement pratiques, ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Oui, l'habitude peut tuer l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, ils paraissaient d'abord pleins de zèle, et puis ils se trouvent finalement n'être plus que l'homme de son service. Vous savez, il y a des personnes qui deviennent l'homme de leur service. Il n'y a plus de zèle, vraiment, parce qu'il ne s'est plus alimenté par une intimité avec Christ et une vie d'offrande. Il faut donc renouveler sa vocation. Et à mesure que le charme de la nouveauté s'efface, il faut fortifier l'élément moral. Vous savez que dans la vie chrétienne, il y a des périodes qu'on appelle communément des périodes du désert, hein, le désert. On sait qu'on est à Christ, il n'y a aucun doute, mais il ne se passe pas grand-chose. Pour avoir passé, donc, pour être resté 24 ans dans la même entreprise, je peux vous dire qu'il y a certains moments, malgré les enfants spirituels que Dieu m'a donnés, donc les nombreuses conversions que Dieu a faites au travers de mon témoignage, il y avait des périodes pendant un an et demi, il ne se passait rien. J'avais plus de conversion, j'avais plus rien. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis c'était le boulot, vous savez, le boulot, la famille, les enfants. Je suis marié, 4 enfants. Oui, il n'y avait rien d'extraordinaire. Enfin, en dehors de ma femme, mais je veux dire, il n'y avait rien de spécial qui se produisait. J'étais en Christ, oui. Mais il n'y avait rien d'enthousiasmant. Et c'est dans ces périodes-là où il faut que l'élément moral soit renforcé. Il faut qu'on se rappelle qu'on est chrétien et qu'on doit vivre de telle façon dans la plénitude du Saint-Esprit. Et ce n'est pas toujours extraordinairement merveilleux, hein. C'est le quotidien du boulot. Et vous savez, les collègues, ils vous regardent là. Ils vous attendent au tournant, là. Et puis au bout d'un an, un an et demi, des fois 2 ans, paf, de nouveau, il y avait un événement que Dieu créait, il sauvait une âme. Je me disais, oh, c'est super, il y a un nouveau collègue qui rentre dans le corps de Christ et tout. Et dans 42 ans, je n'ai pas toujours eu des périodes, vous savez, triomphantes. J'ai eu des périodes où, ben voilà, il faut faire ce qu'on doit faire. Et c'est là où l'élément moral doit être renforcé et fortifié. Alors, Paul va dire à Timothée, prends garde à toi. Et à l'instruction, et donc il s'adresse à un jeune homme, hein, son enfant dans la foi, on estime à peu près 30-35 ans, l'âge de Timothée. Certains l'estiment encore un petit peu plus jeune, ça dépend. Alors il lui dit, prends garde à toi et à l'instruction, car en faisant cela, C'est-à-dire ces deux choses, prendre garde à soi et instruire, et non pas seulement la dernière. Vous savez, des chrétiens, ils passent leur temps à instruire les autres, mais ils ne prennent pas garde à eux. Vous avez des hommes de Dieu qui passent leur temps à instruire le peuple de Dieu, mais ils ne prennent pas garde à eux. Et c'est pour ça qu'on a des fois des scandales qui apparaissent dans la presse, que ce soit moins souvent en France, mais outre-Atlantique un peu plus souvent. Mais ça vient de là. Prendre garde à soi et instruire. Parce que quand on instruit les autres, on s'instruit. Très important, c'est... Vous voyez, l'écriture a un équilibre extraordinaire, je trouve. Et il suffit qu'on fasse attention à chaque chose et qu'on les vive par la grâce de Dieu, et ça marche. Alors, il dit, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Oui, tu te sauveras toi-même de tomber dans le péché. Et tu sauveras les autres aussi de tomber dans le péché. Parce que tu instruis des chrétiens, des enfants de Dieu. Et donc vous allez ensemble grandir dans la foi, dans la vie chrétienne, dans la sanctification. Ça, c'est en 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Bon, ce sera peut-être pour la prochaine fois, alors. Parce que décemment, je ne peux plus continuer mon message. Quand même terminer, la première des choses qui est très importante dans la vie chrétienne, qu'on soit serviteur de Dieu ou qu'on soit chrétien, serviteur de Dieu au travail, et non pas dans un ministère de la parole ou autre, un pastoral ou autre, mais on est tous dans le ministère, on est tous serviteurs de Dieu. Le premier moyen, ou plutôt la condition de tous les autres, c'est de prendre du temps avec Dieu. Ce qu'on appelle la solitude avec Dieu. Enfin, c'est un peu paradoxal, hein, parce que la solitude, c'est tout seul, c'est pas à deux, mais c'est vraiment s'éloigner, comme le Seigneur Jésus le fait dans les évangiles, où il nous est plusieurs fois montré le Seigneur se retirant à l'écart et passant de longues heures loin des hommes et du bruit. Donc le Seigneur savait se retirer. Et nous aussi, on doit apprendre dans une société de folie, avec une pression incroyable quand on est dans le monde du travail. C'est assez fou, hein. Moi je vois mes frères et sœurs en Christ, là, comment ils sont pressés, stressés et tout, là, par le boulot. Eh bien, il faut apprendre à avoir des temps de solitude. Et puis, dans cette solitude, eh bien, il faut faire ce qu'on appelait, comme quand j'étais enfant, j'ai été élevé dans le catholicisme, un examen de conscience. Quand j'étais jeune, on ne se couchait jamais avant d'avoir passé en revue la journée, dans notre esprit, hein, parce que on était élevé comme ça. Hein. Je suis vieux, hein. Et ça rigolait pas. Hein. Tu te couches pas sans te placer devant Dieu et faire ton examen de conscience. C'est-à-dire, tu te places devant toi et devant Dieu, devant toi-même, et tu regardes là où tu as été vraiment droit, là où tu l'as été moins, et qu'est-ce que Dieu demande dans la connaissance du catéchisme qui était la nôtre à l'époque. Et c'est pour ça que dans le Proverbe chapitre 4, verset 26, il est dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Ça, c'est le premier, le début de ce que la solitude va nous permettre de réaliser et de vivre. Alors que Dieu nous accompagne, les uns et les autres, et moi le premier, dans cette marche de sanctification, de dépendance avec lui pour la gloire de son nom. Amen.